Bonjour Daniel, je suis agriculteur dans les Bouches-du-Rhône. Donc pour réagir à votre dernière émission, je suis totalement d'accord pour un changement de modèle agricole. Produisons moins de maïs, d'accord, mais depuis des décennies, on est confronté à la même logique. Moins de production en France provoque plus d'importations. Si nous produisons moins de maïs et que nous importons beaucoup plus de soja de pays d'Amérique latine, où cela provoque des désastres au niveau environnemental, en fait, le remède sera pire que le mal. Merci.
Bonjour, Anna de Tours. Voilà, j'ai lu le résumé du rapport du GIEC de février 2022. Je crains malheureusement qu'il conforte nos décideurs politiques dans leur inaction contre le réchauffement climatique. Parce que dans ce rapport, le GIEC a évalué les conséquences du réchauffement climatique pour nos sociétés dans les décennies à venir. En résumé, pour les pays riches, comme le nôtre, ce ne sera pas très drôle, mais on s'en sortira. En revanche, pour les pays pauvres, l'Afrique, une partie de l'Asie, etc., ce sera la catastrophe. Désertification, sécheresse, famine et grands déplacements de population. En gros, les pays riches réchauffent le climat et les pays pauvres en paieront les conséquences. Donc, pour nos dirigeants, il n'y a pas de problème. Pourquoi se gêner ? Merci.
Pascal, dans le Maine-et-Loire. Ce matin, réveille avec une odeur de fumée dans la maison, et en sortant, je vois et sens de la fumée un peu partout. À la sortie de l'école, on parle de mauvaise nuit à cause des hélicoptères qui ont tourné. Et oui, il faut sauver du climat déréglé la vigne et la filière viticole, qui produit un très bon poison, mais un poison. Quel bilan faire de tout ça ? À côté de ça, de l'argent public aide les agriculteurs très dépendants des énergies fossiles face à la crise ukrainienne, sans remettre en question cette dépendance et la cohérence des productions impactées. Serre chauffée, élevage hors sol, intrants chimiques. Ma femme et moi sommes éleveurs laitiers bio. Nous produisons peu, mais en recherchant l'autonomie et l'économie, nous vivons plutôt bien. Et mes prairies, en plus de stocker du carbone, abritent des espèces rares et sont belles. J'en ai marre d'être d'un côté amalgamé avec l'élevage industriel quand il s'agit d'émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre, de voir fleurir des labels partout sur les emballages qui surfent sur la vague et se donnent bonne conscience. Non, tous les systèmes ne se valent pas.
Voilà quelques-uns des messages reçus sur le répondeur de la Terre au Carré concernant le GIEC et les pays riches dont nous parlait Anna de Tours. On fera réagir justement nos invités à ce sujet dans un instant. 01 56 40 45 45, c'est le numéro de téléphone à composer si à votre tour, bien sûr, vous souhaitez nous laisser un message sur notre petite boîte vocale. Il était 17h hier lorsqu'a été révélé le nouveau rapport du GIEC, un dernier volet d'une trilogie catastrophe que les experts climat de l'ONU consacrent cette fois-ci à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Car petite lueur d'espoir dans cet océan de projections climatiques anxiogènes, il existe bel et bien des outils pour endiguer la crise que nous traversons. Cet après-midi, dans notre Terre au Carré, on vous dit ce qu'il faut retenir des solutions possibles pour contenir le réchauffement. Et pour en parler, nous sommes avec deux co-auteurs de ce rapport, Céline Guivarch et Franck Lecoq. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Céline Guivarch, vous êtes directrice de recherche à l'École des Ponts, économiste au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat. Et Franck Lecoq, vous êtes chercheur senior à AgroParisTech et directeur du CIRED. On va se retrouver donc dans un instant avec les messages et les questions sur la page de la Terre au Carré, nos réseaux sociaux et l'application France Inter pour vous entendre avec vos messages vocaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Oui, avec des scientifiques qui veulent, eux, aller au-delà des rapports. Ils se rebellent en entrant dans la désobéissance civile pour le climat.
Et puis à 14h40, ce sera le rendez-vous de la campagne pour l'élection présidentielle. Voilà pour le sommaire de l'émission, réalisé par Valérie Ayestaraï, préparé par Lucie Sarfati avec Jérémy Kaufmann aujourd'hui à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Il reste 3 ans pour agir, après, il sera trop tard. Les experts climat de l'ONU donnent des solutions concrètes pour éviter le chaos climatique.
Inondation en Allemagne.
Il y a tellement de morts.
Le monde n'a plus que 3 ans pour inverser la courbe des émissions de CO2, alerte les scientifiques du GIEC.
20 degrés au Groenland.
La glace a reculé d'à peu près 200 mètres.
Agir vite et fort pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC redit ce soir l'urgence de s'attaquer au problème du réchauffement climatique.
pour le GIEC, c'est désormais une certitude. Le seul coupable, c'est l'être humain.
Voilà ce qu'on pouvait entendre hier soir sur différents canaux au sujet donc de ce troisième et dernier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC qui a publié hier. Nous sommes donc avec deux de ses auteurs, Céline Guivarch et Franck Lecoq, pour en parler. Vous êtes donc co-auteur de ce rapport, pratiquement 3000 pages. Ça représente, on peut le rappeler, c'est important, le consensus mondial le plus à jour aujourd'hui sur ces questions, avec 18 000 publications qui ont été étudiées donc par les scientifiques du monde entier. Cette fois-ci, donc, focalisation sur l'éventail des politiques qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc des choses très concrètes, des solutions évidemment. Un mot d'abord sur ce qu'ont retenu les médias, parce qu'on a beaucoup vu circuler ça depuis hier, cette phrase choc, il ne nous reste que 3 ans, après il sera trop tard. Est-ce que finalement c'est pas un peu regrettable qu'on retienne ce genre de slogan, Céline Guivarch, parce que c'est assez démotivant finalement s'il ne nous reste que 3 ans, non ?
C'est effectivement un message qu'on entend souvent, il nous reste 3 ans, 5 ans, 2 ans, etc. Il me semble que le message qui ressort à la fois de ce volet 3 sur l'atténuation et en regard du volet 2 sur les effets du changement climatique, les impacts et la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines au changement climatique, finalement ce qu'on peut dire, c'est qu'il est jamais trop tôt pour agir. Seules des réductions immédiates et soutenues des émissions de gaz à effet de serre mondiales sont à même de nous mettre sur une trajectoire pour éviter les effets les plus graves du changement climatique, et nous ne sommes pas aujourd'hui sur cette trajectoire. Par ailleurs, il n'est jamais trop tard pour agir. Il faut sortir de cette idée qu'il y aurait un seuil avant lequel on aurait aucun problème. On a déjà aujourd'hui des effets du changement climatique qui sont négatifs, qui sont mesurables et qui donnent lieu à des pertes et des dommages dans toutes les régions du monde. Et chaque fraction de degré supplémentaire, c'est des impacts supplémentaires, c'est des risques supplémentaires. Et finalement, plus on avance, plus on a des effets qui sont complexes à gérer, jusqu'à avoir des problèmes de sécurité alimentaire, d'accès à l'eau, de santé humaine majeurs.
Franck Lecoq, on est d'accord, après 3 ans, c'est pas la fin du monde. C'est-à-dire qu'il nous reste encore effectivement des choses à faire. Il faut faire attention à ce genre de message qui peut être vraiment contre-productif aussi par rapport au public et aux décideurs.
Oui, je crois que effectivement, comme Céline l'a rappelé, si ensuite au bout des 3 ans, on n'est pas arrivé au pic des émissions, alors que fait-on? Il me semble que le rapport essaye vraiment de rentrer dans cette logique-là, et au contraire de mettre sur la table une panoplie de solutions d'actions possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en disant d'abord qu'elles existent dans tous les secteurs, qu'elles sont disponibles aujourd'hui.
Vous êtes passé tous ces secteurs en revue, du bâtiment à l'agriculture en passant par l'alimentation. C'était vraiment le but de ce travail?
Absolument, c'est passé au crible, passé au crible. Qu'elles sont disponibles donc aujourd'hui de façon large, et que à coût raisonnable, elles peuvent nous permettre, si elles sont mises en œuvre, de réduire les émissions de moitié à l'horizon 2030.
Ça, c'est un message positif justement. Elle est importante cette phrase. On peut réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. C'est quand même demain, et de moitié, c'est quand même encourageant. Sauf qu'il faut voir ce qu'il y a derrière, ce que ça implique. Céline Guivarch.
Je pense que ce rapport, on peut vraiment le lire comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. Dans tous les domaines, on observe des progrès, on observe des politiques et mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans beaucoup de pays du monde, et puis à des échelons aussi de villes, d'entreprises qui s'engagent concrètement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau ces dernières années, et la littérature scientifique est à même d'analyser ça et de montrer que ça a conduit à éviter des émissions de gaz à effet de serre. Par contre, les émissions de gaz à effet de serre mondiales, elles restent à la hausse. La vitesse de la hausse a ralenti, mais elle reste à la hausse.
On rappelle la trajectoire, c'est je crois plus 45%, alors qu'il faudrait qu'elle baisse de 16%. C'est ça ce que dit l'ONU aujourd'hui.
Alors, la trajectoire, cette dernière décennie, en moyenne...
Qui va vers 2,7 degrés, c'est ça les dernières...
En moyenne annuelle, cette dernière décennie, on a une augmentation d'à peu près 1,3% par an. Ça a ralenti par rapport à la décennie d'avant, on était à un peu plus de 2. Donc on a effectivement un ralentissement. Si on se projette maintenant dans le futur, dans des trajectoires qui seraient compatibles avec contenir l'augmentation de la hausse de la température à 2 degrés...
à l'horizon 2030, ces trajectoires-là, elles sont à moins 20, moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre mondiale par rapport à aujourd'hui. Pour le 1 degré, on est à une division par deux quasiment. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que quel que soit le niveau de stabilisation qu'on vise, 1 degré 5, 1 degré 6, etc., etc., ce qu'il faut, l'objectif de long terme, c'est atteindre zéro émission nette de CO2. Plus on l'atteint vite, plus on va stabiliser bas et plus on va éviter les effets les plus graves du changement climatique.
L'échéance est en 2050 hein, pour le zéro net.
Autour de 2050.
Est-ce que l'objectif du 1,5 degré est encore aujourd'hui atteignable, Franck Lecoq, ou est-ce que finalement on l'oublie et on passe déjà au 2 degrés?
Moi, je crois que ce que dit le rapport, c'est que sans une action rapide, profonde,
drastique,
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec les chiffres qu'a donné Céline et que je vais pas répéter, alors l'objectif de 1,5 n'est plus accessible. Voilà. Après, ces actions rapides, profondes, elles existent. Elles sont peut-être un point à souligner pour venir dessus. Elles sont non seulement, elles ne sont pas que d'ordre technologique, mais elles sont à la fois sur les technologies, effectivement, mais aussi sur l'organisation des sociétés, et sur les infrastructures et sur la demande. Et c'est ces paquets-là, cet ensemble-là, qui constituent les solutions.
Si vous dites qu'elles ne sont pas que d'ordre technologique, c'est qu'il y a un certain nombre de dirigeants, ou de dirigeants d'ailleurs politiques ou industriels, on peut le dire comme ça, quel que soit le pays, qui aujourd'hui, vous pensez, s'appuient un petit peu trop sur justement ces solutions technologiques, ces belles promesses de faire voler les avions à l'hydrogène, par exemple, de faire rouler des voitures aussi nombreuses mais électriques, donc les choses vont aller mieux. C'est ça en fait qui est un piège quand même, c'est ces genres de discours que beaucoup de dirigeants avancent.
Je pense qu'on aimerait tous avoir la solution
pour garder le même rythme de vie finalement,
qui nous permet de simplement de changer quelque chose à la marge et de garder la même trajectoire, de garder complètement de ne rien changer par ailleurs. Malheureusement, ce que dit le rapport, ce que dit la recherche sur laquelle il est basé, c'est que ça c'est pas possible et que c'est seulement une combinaison de l'ensemble de ces éléments qui est nécessaire.
D'où un besoin aussi, Céline Guivarge, de sobriété. C'est un mot qui apparaît, qui est mis en avant même de plus en plus.
Alors en fait, ça dépend des secteurs qu'on regarde. Hein. Selon les secteurs, la littérature scientifique va utiliser des cadres de pensée, des technologies et des typologies qui vont être un petit peu différentes. Dans le secteur des bâtiments, c'est effectivement une typologie en sobriété, efficacité, renouvelable qui a été retenue pour analyser les solutions. Donc dans le secteur des bâtiments, sobriété, c'est chauffer à 19 plutôt qu'à 20, ne pas chauffer certaines pièces, ne pas chauffer le week-end les bureaux s'ils sont pas occupés, etc. Ça, c'est la sobriété dans les bâtiments. L'efficacité, ça va être isoler les bâtiments pour qu'ils puissent avoir un confort thermique aussi bien l'hiver que l'été sans avoir besoin de beaucoup d'énergie.
Le chauffage ou le clim, ouais.
Voilà. Et puis énergie renouvelable, ça va être beaucoup des énergies décentralisées de type panneaux solaires installés sur les toits. Donc ça, c'est dans un secteur. Dans d'autres secteurs, ça va être des cadres un petit peu différents, mais où finalement, on va retrouver un petit peu l'idée qu'il y a des natures différentes d'action et que ce n'est pas uniquement une question d'innovation pour des technologies futures, ni seulement une question d'adoption de technologies, mais bien une question de repenser nos infrastructures, investir pour qu'elles permettent de vivre correctement sans utiliser beaucoup d'énergie, etc.
On y reviendra tout à l'heure. On verra même que les technologies sont suggérées, certaines en tout cas, par ce rapport, ce qui peut paraître étonnant, d'ailleurs, comme la captation du CO2 ou la voiture électrique. On en reparlera évidemment avec vous sur ce qui est des transports. Et puis, bien sûr, on verra quelles sont les solutions concrètes pour parvenir justement à maintenir le réchauffement climatique avec les messages qui arrivent sur le site de la Terre au Carré, franceinter.fr pour l'en retrouver.
On dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes de chanson, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Demain, j'irai pas mieux. Devoir se dire adieu. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, gros bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux.
Même demain, la voix de Liona sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Avec nos invités Céline Guivarch et Franck Lecoq, co-auteurs donc de ce troisième volet du sixième rapport du GIEC. On aborde donc cette question pour voir un petit peu quelles sont les solutions concrètes. Pour réagir à ce que nous disait Anna de Tours, notre auditrice tout à l'heure au sujet du deuxième rapport, elle rebondissait en disant ben voilà, finalement, les pays riches, c'est pas drôle, mais on va s'en sortir, c'est plutôt les pays pauvres qui vont trinquer. Vous rappelez d'ailleurs dans ce rapport que tous les pays du monde ne contribuent pas de la même manière justement au réchauffement climatique et que ce sont bien les pays les moins développés qui totalisent les émissions par habitant les plus basses, en tout cas par rapport aux pays riches. Céline Guivarch, ça c'est un point aussi toujours aussi saillant du rapport.
Alors, il y a effectivement, en mettant ensemble le volet du groupe 2 sur les effets du changement climatique et ce volet sur l'atténuation, on a une double injustice climatique avec les pays les plus pauvres aujourd'hui qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique et les pays les plus riches aujourd'hui qui sont le plus responsables du cumul des émissions de gaz à effet de serre qui sont la cause du changement climatique. Par contre, il faut aussi sortir de cette idée que en France ou en Europe, on serait à l'abri d'effets du changement climatique. Et là, c'est dans le groupe 2, mais je vais le rappeler quand même. Par exemple, tout le pourtour méditerranéen dont fait partie le sud de la France est ce qu'on appelle un des points chauds du changement climatique qui cumule une exposition importante et une vulnérabilité importante aux effets du changement climatique, notamment aux sécheresses plus fréquentes, plus intenses. Sur la France, on peut aussi regarder l'érosion du littoral, la fonte des glaciers et de la neige dans nos massifs, les effets sur l'agriculture, etc. Donc, il faut sortir de cette idée qu'on serait à l'abri.
Franck Lecoq, encore une fois, pour répondre à notre auditrice, ce serait une erreur que les pays riches se sentent peu concernés, finalement, par les émissions de gaz à effet de serre.
Oui, parce que donc je crois qu'il y a aussi il y a un enjeu, et on le voit, ça a été aussi rappelé dans le groupe 2, c'est de solidarité ou d'intérêt bien compris de toute façon. Alors, nous sommes tous dans le même bateau, il n'y a pas une isolation. Nous ne sommes pas isolés.
Mais ça serait dans le meilleur des mondes, si je puis me permettre. Ce serait beau que...
Je pense que un point qui est important, qui est souligné dans le rapport aussi, essentiel, c'est que ces solutions aussi dont on parle et les efforts dont on parle sont pas forcément les mêmes, sont pas les mêmes entre les différents pays du monde. Et un point essentiel de la littérature, c'est que les pour toutes les populations qui aujourd'hui dans le monde ne sont pas encore à une vie décente. Quelle que soit la définition que l'on retient de ce terme, mais il est possible pour être d'accéder à une vie matérielle décente avec de l'accès à l'eau, à l'énergie, etc., tout en dans une société qui soit un monde très largement décarboné. Ça, c'est un message extrêmement important parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une opposition entre des aspirations tout à fait légitimes au développement et la réduction des émissions.
Céline Guivarch, parce qu'il nous reste 5 minutes, ça va passer très très vite. Il faut arriver vraiment aux solutions tout de suite. Par quoi on commence finalement pour substantiellement faire baisser les gaz à effet de serre? On est quoi, du côté du charbon, du pétrole et du gaz? C'est par là qu'il faut commencer?
La combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, est une des sources majeures des émissions de CO2, et effectivement sortir des énergies fossiles est un des éléments sur le charbon. Par exemple, dans les trajectoires qui sont compatibles avec 1,5 degré, on a une division par 3 du charbon à l'horizon 2030. Si on regarde aussi, il y a quelque chose qui est assez fort dans le rapport, qui est si on prend toutes les infrastructures qui existent aujourd'hui et qui utilisent des énergies fossiles, les centrales pour produire de l'électricité au charbon, au gaz, au pétrole, les usines, etc., si on les utilisait jusqu'à la fin de leur durée de vie théorique, technique, les émissions associées dépassent le budget correspondant à 1,5 degré. Donc en fait, ça veut dire qu'il va falloir abandonner.
Dire adieu aux énergies fossiles très clairement et très vite.
Abandonner avant la fin de leur durée de vie. Et donc,
mais
ça
alors,
veut aussi
comment
dire...
vous voyez la situation en ce moment en Ukraine, par exemple, où tout le monde se précipite pour faire venir, lié à l'Ukraine évidemment, où tout le monde se précipite pour faire venir du gaz naturel liquéfié, etc. Parce qu'à la base, il y a un besoin, c'est-à-dire que si, Franck Lecoq, on coupe les fameux 40% là, de gaz dont dépend l'Europe pour de la Russie, qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein qui disent que c'est impossible, en fait.
Alors, on n'est pas dans les mêmes temporalités. Le rapport d'abord a été...
2030, c'est dans 7 ans. C'est
oui,
pas,
mais
c'est
le
rapport ne tenait pas compte de l'Ukraine.
Le rapport ne tenait pas compte de l'Ukraine et la question de la coupure de possibles pénuries, là, maintenant, tout de suite, est pas...
Oui, mais je veux dire, c'est ce à quoi on doit arriver à terme, c'est-à-dire plus de gaz aussi, parce que le gaz est souvent quand même présenté comme une énergie de transition.
Oui, mais alors dans les scénarios, c'est d'abord le charbon, ensuite le pétrole et ensuite le gaz naturel. Et il y a quand même bien cette séquence. Mais effectivement, il y a le rapport montre clairement qu'on a devant nous un défi tout à fait colossal.
Avec une fermeture prématurée, vous le dites, des usines justement à charbon ou de gaz. Donc ça veut dire clairement adieu à ces énergies fossiles et de façon très rapide. Les énergies renouvelables, là aussi, c'est l'autre point extrêmement important pour essayer de trouver des solutions. Il faut accélérer la transition, Céline Guivarch, vers le renouvelable pour réduire encore les émissions de gaz à effet de serre.
C'est un des éléments. Les coûts ont énormément baissé ces dernières années, ce qui les rend économiquement rentables dans de nombreuses régions du monde. Je pense on va pas avoir beaucoup de temps, mais les solutions. En fait, le secteur de l'énergie et de la production d'électricité, c'est 34% des émissions mondiales, et le reste, c'est les transports, les bâtiments, l'industrie.
Et l'agriculture, par exemple, qu'est-ce que vous recommandez? Enfin, non, il y a pas de recommandation, mais qu'est-ce qui est dit dans le rapport?
Sur l'agriculture, je pense qu'il y a déjà un potentiel important dans la réduction de la déforestation, dans la reforestation, et il y a par ailleurs toute une série de pratiques agricoles vers des choses qui séquestrent plus de dioxyde de carbone. Mais je pense qu'il faut vraiment le message central, c'est qu'on a plus le temps aujourd'hui de faire les choses de façon séquentielle, un secteur, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est bien l'ensemble de ces secteurs dans lesquels il faut marcher de front pour envisager les réductions d'émissions.
Les véhicules électriques, on en parlait tout à l'heure, ce qui peut paraître presque étonnant parce qu'il y a quand même aussi des problèmes autour de ces voitures qui sont très énergivores, qui vont justement faire appel aussi à des métaux rares. Donc le rapport préconise justement d'avoir recours aussi aux voitures électriques. En tenant compte aussi quand même de ces bémols, Céline Guivarch.
Alors en fait, c'est sur les transports, c'est vraiment dans un triptyque éviter des déplacements, reporter les déplacements qu'on peut reporter vers des modes peu émetteurs, le rail, les transports en commun, ou pas émetteurs, le vélo, la marche, et après, améliorer les véhicules pour qu'ils soient peu énergivores, légers et électrifiés. Ça fait sens si la production d'électricité est bas carbone.
Donc encore une fois, pardon, mais ça, tout passe, vous l'avez dit tout à l'heure aussi pour l'énergie, par la base, le premier pas, c'est un peu la sobriété, c'est-à-dire vous disiez chauffer un peu moins nos intérieurs, là vous dites c'est essayer de reporter nos déplacements, en tout cas en voiture, c'est essayer de repenser nos usages et donc d'être un peu plus sobre, entre guillemets, encore une fois, Franck Lecoq.
Encore une fois, je pense que c'est pas l'un puis l'autre, c'est ensemble que cette transition peut avancer vite ou peut accélérer. Un point sur lequel peut-être parce que ça peut sembler extrêmement enfin naïf ou en tout cas de penser cette transition aussi rapide. Le rapport s'intéresse énormément. Il y a énormément de travail justement sur les implications de ces et les enjeux économiques et surtout sociaux qui sont associés, puisque vous avez des gagnants mais vous avez aussi des perdants, des gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont dans les secteurs intensifs en énergie. Globalement, ça s'équilibre, mais derrière ce globalement, vous avez, et c'est très important, énormément de travail à faire pour l'éducation, la formation, etc. Et ça, je pense que c'est important à souligner.
Allez, on espère qu'on aura encore le temps pour une ou deux questions dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au carré.
Car il est 14h30, c'est l'heure de Camille Passauvert.
Il y a de la rébellion dans l'air et pas n'importe laquelle, puisque ce sont les scientifiques eux-mêmes qui se rebellent. Ça, c'était hier, par exemple, à l'université de Grenade, en Espagne, des chercheurs qui se mobilisent dans le hall de la fac avec écrit « Révolution climatique » sur leur banderole. Le tout en partenariat, on va dire, avec l'organisation Extinction Rebellion. Parce qu'ils se mettent donc, eux aussi, à la désobéissance civile non violente. Vous vous souvenez peut-être de l'appel signé par plus de 1000 scientifiques il y a 2 ans, c'était juste avant le Covid, en une du journal Le Monde. La rébellion est nécessaire, disait-il. Eh bien, les choses prennent de l'ampleur avec plusieurs actions toute cette semaine dans plus de 25 pays, en parallèle de l'apparition du dernier volet du rapport du GIEC.
Ça ne suffit plus d'alerter, ça ne suffit plus de faire des rapports, ça ne suffit plus d'être dans des commissions où personne n'écoute.
Les chercheurs passent à la vitesse supérieure, comme ce biologiste d'un prestigieux laboratoire français qui prépare une action et tient donc à rester anonyme. C'est pour ça qu'on a même déformé sa voix.
La situation est grave et nous, on le sait. Donc en tant que sachant, on est contraint. On est vraiment contraint parce que c'est pas le rôle des chercheurs et des chercheuses. Normalement, on doit rester dans nos laboratoires à faire la recherche, mais si rien ne se passe et sachant la situation, on est obligé de faire quelque chose.
Entrer donc dans l'activisme, c'est le principe du mouvement Scientist Rebellion derrière toutes ces actions, dont Michael Lynch-White, doctorant en physique à l'université Saint-Andrews en Écosse, est cofondateur.
Il est évident que les scientifiques qui font des actions directes sont pris plus au sérieux. Si vous annoncez que c'est la fin du monde, en vous rasseyant et buvant votre tasse de thé, eh bien c'est dur de vous croire. Il faut sortir dans la rue, se mouiller, et ça veut dire risquer son boulot, prendre le risque d'être arrêté, risquer sa santé avec une grève de la faim.
Agir à la hauteur finalement de ce qui se passe pour interpeller tout le monde, quand ce qui a été fait jusque-là ne semble pas suffire.
I feel like I've tried everything else.
Rose Abramoff, par exemple, spécialiste du changement climatique aux États-Unis, explique qu'elle a l'impression d'avoir tout essayé.
Writing articles, teaching,
écrire des articles, donner des cours, être bénévole dans des associations. Mais aucune de ces activités n'a vraiment fait bouger les choses, dit-elle. Je ne vois pas les gouvernements prendre les décisions qu'ils devraient prendre pour limiter le réchauffement aussi près que possible des 1,5 degrés.
As close to 1.5 degrees Celsius as possible.
Ni pour limiter les émissions des énergies fossiles aussi vite que possible. Donc Rose Abramoff aussi se mobilise. Alors vous allez peut-être penser qu'il s'agit de la nouvelle génération de chercheurs, des jeunes autrement dit, mais pas que.
Vous êtes un boomer.
Un boomer, notre biologiste anonyme fait de la recherche depuis 30 ans, il se lance lui aussi.
On s'est dit la chose suivante, c'est que si on est une personne de la société civile et qu'on entend des scientifiques qui nous disent « Ah, c'est grave, mais bon, ils restent bien tranquilles dans leur laboratoire », bon, Est-ce que c'est vraiment grave, en fait?
Et idem pour les médias qu'il faut aussi accrocher quelque part.
Les journalistes ne disent pas la vérité telle qu'elle est. On préfère passer beaucoup d'énergie à discuter sur une action violente d'une gifle donnée par je sais plus qui ou je sais plus où, plutôt que de dépenser beaucoup d'énergie médiatique à discuter du rapport du GIEC qui est alarmant.
La rébellion des scientifiques estime enfin que ce n'est pas qu'à la jeunesse de se mobiliser, hein, c'est à eux d'être en première ligne. Une politisation certaine, mais indispensable et apartisane, où que ce soit dans le monde, et qui, d'après les milliers de chercheurs et de chercheuses déjà entrés dans la désobéissance, ne fait que commencer.
Et c'était Camille Passauvert à écouter sur la page, bien sûr, de la Terre au Carré.
Céline Guivarch, Franck Lecoq, est-ce que vous seriez prêt à rentrer dans la désobéissance civile, c'est-à-dire à aller, je sais pas, vous enchaîner quelque part ou plus loin, parce que c'est important, vous sonnez l'alarme, mais quelque part, vous le faites depuis vos bureaux, tranquillement assis, derrière un micro, en l'occurrence aujourd'hui.
Alors, je pense qu'on fait une recherche qui est effectivement dans la société, on n'est pas en dehors en train de l'observer.
Mais est-ce que vous vous mobilisez? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes déjà allé, par exemple, ne serait-ce que manifester, Céline Guivarch?
Je pense que c'est pas forcément la question de ce que je fais moi, ça interroge clairement nos métiers et le rapport du temps qu'on passe à produire des nouvelles connaissances et le temps qu'on passe à transmettre, partager le plus largement possible pour transmettre le pouvoir et transmettre le relais aux médias. Aux citoyens.
Franck Lecoq, dire « la maison brûle », pour reprendre l'expression bien connue, tout en restant assis, en le disant, et pas aller dehors dans la rue pour vraiment, aux côtés des jeunes, en l'occurrence, faire bouger les choses, est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Je pense qu'il faut vraiment séparer l'activité d'analyse qui a été faite, qui est la base de ce travail, des enjeux, des risques, mais aussi des solutions. Ensuite, de ce que individuellement ou collectivement on peut penser et penser nécessaire en termes d'action. C'est d'autant plus important dans le cadre du GIEC, ça je le rappelle, que c'est pas un rapport classique, c'est pas juste un rapport écrit par des scientifiques, mais c'est un rapport écrit par des scientifiques dont le résumé pour décideurs a ensuite été négocié avec les gouvernements et donc validé et approuvé par tous les gouvernements.
Vous répondez pas vraiment à la question. Hein.
Ce que je peux dire, c'est qu'il ne serait pas possible d'arriver à une validation et une signature par les gouvernements si nous étions, nous, considérés comme, non pas des scientifiques, mais des militants. Et ça, je pense que c'est essentiel.
Je précise que le secrétaire général de l'ONU vient de tweeter que les dangereux radicaux, comme sont parfois présentés les activistes, sont ceux qui investissent et les pays qui investissent encore dans les énergies fossiles.
Céline Guivarch, pour tenir l'objectif des 2 degrés, il faudrait entre 2030 et 2050 réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre comme en 2020, c'est-à-dire l'année du premier confinement, année exceptionnelle où une bonne partie de l'économie mondiale s'est totalement arrêtée. En 15 secondes, est-ce que vraiment on peut imaginer que ça se reproduise et qu'on arrête l'économie? Parce que ça veut dire ça concrètement. C'est ça la proposition finalement, là?
Non, en fait, ce qui a, alors l'ordre de grandeur du défi qui est devant nous, il est là. Par contre, ce dont on parle, c'est pas de tout mettre à l'arrêt, c'est de tout transformer.
On peut le lire où, alors, ce rapport? Est-ce qu'il est traduit en français aussi pour le public ou pas? Ou ça reste en anglais pour l'instant?
Alors, pour l'instant, le résumé va être traduit en français. Et puis, alors on en a fait un article aussi en français qui
en tout
donne
cas,
les grandes lignes.
En parle largement
et la presse
aujourd'hui
en parle
avec les
largement.
Bonnes feuilles, comme on dit. Merci tout beaucoup, en tout cas, d'être venu dans un instant. La campagne pour l'élection présidentielle. C'était Parcells sur France Inter. Dans un instant, les émissions de la campagne officielle pour l'élection présidentielle.